livre au niveau du fonctionnement par enfant, je trouve très bien, ça mérite. Celui-là, même auteur, encore mieux en fait, parler aux enfants pour que les enfants écoutent et écoutent pour que les enfants parlent. C'est un livre vraiment génial. Et en plus, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, voilà, il y a parfois des petits bandes dessinées qui font agréable la situation et on comprend bien. Ce sont des livres excellents. J'ai aussi des classiques ici que franchement je trouve encore bien. C'est Gordon avec ses fameuses parents efficaces. Donc ça existe depuis bien durette, mais les principes sont tout à fait bien. Et donc celui-là qui est plus à la mode maintenant, éduquer sans punir. Donc ça c'est quand même une approche intéressante. J'ai amené deux autres avec moi, mais ils ne sont pas en français. Donc, ça serait que ceux qui arrivent à lire en anglais qui peuvent faire. Mais celui-là, c'est absolument génial. C'est Nigel Latta, le livre politiquement incorrect des parents. C'est vraiment extraordinaire. Il arrive à traiter un tas de thèmes vraiment bien. On n'a pas un équivalent. Et j'ai une autre que j'aimerais trouver un équivalent en français et je n'ai pas trouvé, mais peut-être ça existe, quelqu'un sait. Ça, c'est un livre, tout ce que chaque parent doit savoir. Ça couvre toutes les étapes de croissance de l'enfant, les choses qui se passent. Il y a un tas de belles photos, des explications. C'est vraiment une vraie source d'information pour les parents, mais je n'ai pas trouvé un équivalent en français, mais peut-être quelqu'un va dire, ah oui, je connais. Donc voilà, je laisse ces livres à disposition si vous voulez feuilleter, regarder, etc. Je n'ai pas des copies à vendre, mais ils sont là pour vous, pour regarder. Et je passe la parole avec beaucoup de plaisir à Corinne.
Merci. Merci. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que vous avez pu mettre un petit peu en pratique par rapport à la session de la dernière fois? Est-ce que vous avez pu peut-être voir le langage de votre enfant ou vous avez pu essayer? Oui, non? Oui? Ah, c'est bien, c'est super. Alors, ce soir, donc la session 3, ça marche pas? Là, ça marche, non? Ah, c'est toi, ça a changé? Voilà. C'est bon, ça devrait marcher. Voilà. Ce soir, donc, la session 3, quelle influence sur nos enfants? Ou qui influence nos enfants? Donc, on a pu voir le premier jour, quand notre enfant est né, ça nous a tous impressionnés, surtout pour le premier. Déjà, de voir ce tout petit être, tout d'un coup, on a réalisé qu'on était parents. Qu'est-ce qu'on allait faire avec? Moi, je me souviens que juste avant d'accoucher, je rêvais que je lui donnais de la soupe à la tomate. Je n'ai même pas pensé que je pouvais lui donner du lait. C'était tellement perturbé que je le nourrissais avec de la soupe à la tomate. Comme quoi, hein? Ça nous perturbe pas mal. Et puis, on s'est vite rendu compte aussi, avec ce tout petit être, quand il grandissait, qu'il était comme perméable à tout, que c'était des vraies éponges. Hein. Les enfants, c'est des éponges. Et tout ce qu'ils voient, ils absorbent, ils prennent. Comme c'est un peu comme vide, leur être, ben, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils prennent. Et puis, ils vont avoir plein de choses qui vont se passer dans leur vie. Et ça va influencer, donc les événements, les circonstances vont influencer leur vie. Et puis, ce n'est pas forcément que ce qui va se passer qui va influencer leur vie, mais c'est surtout la manière dont eux, ils vont y répondre. C'est ça qui est très important. Ce qu'ils vont vivre, c'est important, mais comment ils vont répondre à ce qu'ils vivent, ça, c'est aussi quelque chose qui va façonner nos enfants. Donc, nos enfants sont le phénomène de deux produits, de deux éléments, on pourrait dire, leur expérience de vie, tout ce qu'ils vont vivre de bon ou de moins bon, d'harmonieux ou de difficile, hein, et puis comment ils vont réagir à cette expérience, à ces expériences. Et puis nous, en tant que parents, là où on peut vraiment agir, c'est d'arriver à découvrir là où ils ont besoin de conseils ou bien de structures pour les aider à répondre de la bonne manière aux événements qu'ils vont traverser. Puis c'est pas toujours évident de bien répondre parce que nous-mêmes, on ne répond pas toujours bien aux événements et aux circonstances. Donc, de voir nos enfants traverser des circonstances, des fois, on ne s'aperçoit même pas que peut-être c'est pour eux, c'est difficile. Ou nous-mêmes, on est peut-être en souffrance. Et puis, comment on fait pour les aider? Puis là, on a vraiment besoin de sagesse. Puis, je me dis que nous, en tant que chrétiens, on a vraiment la chance d'avoir l'Esprit Saint. Et puis, de lui demander, et puis vraiment de prier pour ça, parce que c'est pas évident, vraiment. Puis là, des fois, on doit se faire grâce aussi dans ce qui se passe. Donc maintenant, on va mettre l'accent sur certaines influences positives ou négatives hein, dans lesquelles nos enfants vont être soumis. Alors, premièrement, il y a la composition de la famille. Après, c'est une identité familiale. Il faudrait avoir une identité familiale forte. Il y a les influences extérieures et il y a la relation avec Dieu. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais dire que être parent, ça change. Ça change vraiment. Et puis, avoir plusieurs enfants, ça change. Chaque fois qu'il y a un enfant, ça change. Ma belle-maman, elle disait, le premier enfant, on le brode, le deuxième, on le coud, et le troisième, on le faufile. Alors moi, j'ai jamais pu vérifier ça parce que j'ai pas eu l'occasion de coudre ni de faufiler. Je me suis arrêtée au brodage. Mais je vais vous donner quelques petites citations, puis ce sera à vous de me dire si c'est vrai ou pas. Donc, ce n'est pas mon expérience. Mais par exemple, pour la préparation à la naissance, ils disent, avec le premier bébé, on s'exerce bien comme il faut avec la respiration. Avec le second, on ne le fait plus parce qu'on a remarqué qu'avec le premier, ça n'avait pas marché. Et puis avec le troisième, on demande une péridurale à 8 mois. Pour les inquiétudes, avec le premier enfant, dès qu'il y a un signe de détresse, un gémissement, un plissement de sourcils, on va le chercher, on va regarder si tout va bien, on l'écoute respirer, et puis on va voir tout ça. Avec le deuxième, dès qu'il y a un gémissement, on se précipite, mais pas pour voir s'il va bien, c'est pour pas qu'il réveille le grand frère ou la grande sœur. Et puis avec le troisième enfant, on apprend à l'aîné à lui remettre la lolette ou bien à englucher la boîte à musique pour qu'il puisse dormir. Et puis finalement, j'en ai choisi que quelques-unes parce que je ne pouvais pas toutes les dire. Finalement, quand notre enfant avale une pièce de monnaie, alors avec le premier enfant, on va se précipiter à l'hôpital et puis on va faire un rayon X, on va regarder que tout va bien. Avec le deuxième, on va attendre bien patiemment que la pièce ressorte. Et puis comme ça, on sait que tout va bien. Et avec le troisième, on va déduire la pièce de monnaie de son argent de poche. Est-ce que c'est vrai? Plus ou moins. Non, c'est un peu caricatural, mais c'est juste pour se détendre un peu. Donc maintenant, on va entrer dans la composition de la famille. Alors la famille, la structure de la famille pour commencer, c'est une des choses qui va probablement le plus influencer nos enfants, surtout quand ils sont petits. Donc la structure de la famille, elle peut être avec deux parents, avec un seul parent, ça peut être avec un remariage, donc un beau-père ou une belle-mère, ça peut être avec un enfant unique, ou il peut avoir des frères et sœurs, ou il peut même y avoir un mélange avec l'autre personne qu'on a épousée a peut-être des frères et sœurs, a aussi peut-être des enfants, et ça fera d'autres frères et sœurs. Il peut y avoir un déficit mental ou physique. Tout ça, ça va influencer l'enfant, la structure de la famille. Il y a le rôle de la famille. Dans la famille, chacun de nous, on a un rôle qu'on joue, on ne le joue pas, mais on le vit, quoi. C'est des choses qui peuvent être différentes. Dans certaines familles, le papa va s'occuper des enfants, il sera très présent dès l'éducation des enfants, donc même de faire le bain ou de les habiller ou peut-être même de faire la cuisine. Hein. Dans d'autres familles, ça sera peut-être partagé. Et puis dans d'autres, c'est peut-être que la maman qui s'occupe de ces choses-là. Donc on a des rôles comme ça différents de chacun. Peut-être certaines personnes sont très préoccupées et puis elles ont peut-être moins le temps que d'autres. Et puis les enfants aussi, ils ont des rôles à jouer. Hein, ils ont un rôle divers. Pour certaines familles, on va beaucoup les solliciter. Et puis dans d'autres familles, eh ben, ils seront beaucoup moins sollicités. Il y a les conflits familiaux qui vont aussi entrer en jeu. Et comment on va les gérer? Est-ce que lorsqu'il y a un conflit, on sait le prendre tranquillement et avec sagesse et puis à le régler tout de suite? Ou est-ce qu'au contraire, on va dire qu'il ne faut pas rentrer dans les conflits, il ne faut pas se bagarrer avec les gens, il ne faut rien dire, il faut se taire? Tout ça, ça va avoir des influences sur l'enfant. Il y a les échecs familiaux. Ça, c'est un petit peu aussi ce qu'on a appris, ce qu'on a partagé l'autre fois. Est-ce que quand il y a un échec familial, est-ce qu'on va voir des parents qui sont là pour relever les efforts que la personne a fait, même que ça n'a peut-être pas bien marché, ou bien pas? Ça va avoir une influence sur l'enfant. Il y a bien sûr l'histoire familiale. Alors, nous tous, on va faire une histoire avec notre propre famille, mais chacun de nous, on vient aussi d'une histoire de famille. Et puis, à quelque part, ben, on la transporte avec nous et puis on la redonne aussi à nos enfants. Donc, l'histoire de famille, ben, dans les familles, il y a des décès, il y a des naissances, il y a des mariages, il y a des divorces, il y a des déménagements. Il y a des changements de travail, il y a peut-être aussi des problèmes financiers, il y a peut-être des accidents qui ont eu lieu, des maladies. Toutes ces choses, ça peut atteindre notre enfant d'une manière ou d'une autre. Et il y a encore un autre, c'est la valeur familiale. Chaque famille a des valeurs qui lui sont propres, des attitudes, des façons de gérer les choses, des croyances. Ça va affecter notre manière d'agir. Si on souhaite partager nos valeurs à nos enfants, ben, il faut faire le plus tôt possible. Plus vite on s'y prend, mieux ça sera pour donner nos valeurs. Si chaque famille a des valeurs, beaucoup de familles, on a des valeurs en commun. Et puis quand on pense que la famille, c'est une micro-société, ça veut dire que si l'enfant apprend à vivre avec nos valeurs, avec des bonnes valeurs, ça peut être le respect de lui-même, mais le respect d'autrui, le respect des choses qu'on touche, qui ne nous appartiennent pas, la politesse, enfin des choses comme ça. Si l'enfant apprend à vivre ces choses-là dans la famille, ça va lui aider aussi par la suite quand il sera dans la société, à vivre en société justement. Ça, c'est important de savoir ces choses-là, puis de pouvoir de viser plus loin. Et lorsqu'on voit que quelque chose ne fonctionne pas bien dans notre famille, ben, il n'est jamais trop tard pour remettre en ordre les choses, se réajuster un peu. Il ne faut pas le vivre comme un échec, en disant ben voilà, ça n'a pas fonctionné, on est peut-être nul ou je ne sais pas quoi. Mais allons de l'avant et puis changeons ce qui a changé dans notre famille. Maintenant, il y a nos modèles familiaux à chacun personnellement. Puis je vous propose juste de prendre votre petit fascicule à la page 18. Et puis vous pouvez regarder un peu dans le foyer de mon enfance. Juste quelques minutes, on ne va pas faire trop long, mais juste quelques minutes, si vous pouvez déjà le remplir, vous. Et puis, vous pourrez peut-être après partager avec votre conjoint, avec votre voisin ou même dans le petit groupe. à quelque part, ça peut susciter quand même beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations aussi de répondre à un petit questionnaire comme ça. Ça peut nous renvoyer dans nos propres enfances aussi à nos difficultés. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut aussi amener à Dieu aussi par la suite, dans ce qui peut ressortir. Maintenant, si on passe, vous pourrez le finir si vous n'avez pas fini hein, par la suite, mais on passe au deuxième volet de cette session, c'est comment pouvons-nous aider notre famille à avoir une influence positive sur nos enfants ? Si notre identité familiale est forte, les enfants resteront plus attachés à leurs valeurs et à leurs principes. Par contre, les enfants qui ne se sont pas impliqués dans leur famille vont rechercher à l'extérieur de la famille l'identité et les valeurs. On sait combien c'est important et combien c'est valorisant de faire partie d'un groupe. On a tous besoin de faire partie d'un groupe. Que ce soit, bien sûr, on a tous besoin de faire partie d'une famille, mais après, on fera un parti politique, un sport, une appartenance, même un groupe qui s'habille pareil. C'est d'autant plus visible chez les ados hein, qui ont besoin de faire partie d'une tribu. Donc, c'est important vraiment de se sentir faire partie d'un groupe. Donc, à plus forte raison, combien c'est important de permettre que notre enfant ait vraiment cette appartenance-là, comme quoi il fait partie de la famille et il a toute sa place. Et maintenant, comment on peut travailler à cette construction ? Construire une forte identité familiale. Alors, c'est les moments en famille, par exemple. Qu'est-ce que c'est les moments en famille ? À quelque part, c'est quelque chose quand même d'assez simple. Parce que c'est, comme ça indique, c'est des moments qu'on passe en famille, mais qu'on passe à s'écouter les uns les autres, qu'on passe à pouvoir dire aussi ce qu'on a envie de dire et puis à se sentir écouté par les autres. Alors c'est vrai que moi j'ai vu, quand on est une petite famille comme nous, trois personnes, c'est assez facile d'avoir ces moments-là, parce que trois, on a vite fait le tour, puis on est très attentif à notre enfant, puisqu'il n'y en a qu'un. C'est beaucoup plus facile que quand il y a plusieurs frères et sœurs, et puis qu'il faut un petit peu réunir le tout, qu'il faut qu'ils écoutent les uns les autres. C'est peut-être un petit peu plus sport. Alors, pour préparer ces moments famille, il faut déjà que peut-être la maman et le papa, ils aient juste un petit temps à part, les deux, où ils peuvent déjà se mettre d'accord ou parler de ce qu'ils vont dire ou de ce qu'ils veulent apporter. Et puis après, les enfants les rejoignent, ou le contraire, hein, ça dépend comment... Ça, c'est des exemples. Et puis, c'est le temps de partage et d'écoute les uns des autres. Des fois, quand les enfants parlent un petit peu trop ou monopolisent, il y en a qui font, ils ont quelque chose, un bout de bois, un camion, je ne sais pas quoi, quelque chose, et que quand ils l'ont dans la main, c'est eux qui ont le droit de parler. Et puis, alors ça ne va pas avec les 2-3 ans, on est d'accord, il faut que ça soit un petit peu plus. Et puis, ils doivent se passer. Ils le font déjà en garderie. Ah, ben voilà. On se passe la lelette. Alors ça peut éventuellement marcher, donc passer quelque chose, et puis que quand la personne a ce quelque chose, elle peut parler, et puis les autres doivent écouter. Alors, c'est aussi un moment donc pour amener un sujet que nous désirons parler à nos enfants. Moi, je me suis aperçue, quand j'étais enfant, par exemple, souvent, il y avait des informations qui passaient, mais comme on n'était peut-être jamais tous ensemble, on ne savait jamais avec qui, à qui l'information avait passé, puis à qui elle n'avait pas passé. Donc, des fois, de pouvoir se réunir en famille, c'est aussi pouvoir faire passer les informations à tout le monde en une fois. Donc, c'est aussi pour que les enfants puissent amener un sujet ou des questions, ou qu'est-ce qu'ils ont envie de parler, eux. Ça peut être aussi quelque chose pour enseigner une nouvelle, quelque chose qu'on a envie d'introduire dans la famille, une innovation. Moi, je me souviens que mon papa, il nous avait, je pense que c'était lors d'un repas, je ne sais plus, mais tout d'un coup, il nous a dit, ben voilà, on était tous là, tous réunis, il nous a dit que ma sœur et moi, on devenait grandes, on commençait à changer et que dorénavant, ben, il ne rentrerait plus dans la salle de bain. Il ne pourrait plus aller dans la salle de bain quand on y était, donc il ne fallait pas qu'on l'appelle pour qu'il nous amène ceci ou cela. Et puis, au même moment, ben, il a dit à mon frère aussi que lui-même ne devait plus entrer dans la salle de bain et puis devait respecter notre intimité. Ben voilà, c'était dans un moment comme ça de partage. Et puis aussi, il y a les événements importants qu'on peut parler, peut-être des vacances, peut-être un déménagement ou je ne sais pas, quelque chose qu'on a envie de parler tous ensemble. Rire ensemble. Ça, c'est aussi très important de rire ensemble. L'humour, ça fait beaucoup dans une famille. Et si vous arrivez à développer l'humour avec vos enfants, vous allez aussi beaucoup désamorcer des conflits. Moi, je me souviens, ma fille, enfin, on est assez cinéphile, et puis on avait regardé Astérix et Cléopâtre. Et puis, à un moment donné, il y a deux personnages, il y en a un qui dit oui, puis l'autre, il dit non, puis il dit si, non, si, non. Exactement, pas préfet. Et puis, un coup, ma fille, qui était préadolescente, tout d'un coup, elle a commencé à... Enfin, elle était toute fâchée, elle nous reprochait plein de choses. Puis, au bout d'un moment, je l'ai regardée, puis j'ai fait... Puis ça l'a surpris. Puis elle m'a regardée, puis elle m'a fait... Puis je l'ai refait, et puis elle a rigolé, puis elle est partie. Puis ça a désamorcé le conflit tout bêtement, tout juste par l'humour. Ça, j'ai trouvé sympa. Et puis, la dernière chose, c'est aussi pour prier ensemble. Ça vaut la peine de prier ensemble. Manger ensemble, prendre ses repas ensemble, c'est aussi une façon de construire un vrai sentiment d'appartenance. Il y a des familles où les enfants mangent tout seuls devant la télé, où ils ne mangent pas ensemble pour différentes raisons. Si vous avez l'occasion de manger ensemble, si vous avez des horaires qui vous conviennent à ce niveau-là, ça vaut vraiment la peine. Peut-être que dans ces moments-là, dans ces moments de partage, c'est déjà pas le seul moment où votre enfant aura envie de parler. Il parlera à d'autres moments. Mais de savoir qu'il y a ces moments-là pour eux, c'est important. Ils se sentent écoutés, ils sentent qu'il y a des moments privilégiés pour eux. Et puis, c'est des moments qui leur sont consacrés. Puis peut-être que ça ne se déroulera pas toujours comme on veut, ou l'enfant ne sera peut-être pas d'accord de parler à ce moment-là, ou il ne voudra pas venir à ce moment-là. Eh bien, tant pis, ça sera peut-être une autre occasion où il viendra. Mais il faut persévérer, ça vaut la peine. Et puis peut-être qu'on a des enfants trop jeunes, puis qu'on se dit qu'ils sont justement trop jeunes, puis que ça ne vaut pas la peine. Nous, quand on a eu notre fille, on avait un deux pièces. Et puis quand elle a eu 6 mois, mon mari était indépendant, alors dans notre deux pièces, on avait le bureau, nous, notre fille, ça a commencé à devenir un peu serré, alors on avait besoin d'un appartement plus grand, et puis on était en visite un qui nous plaisait vraiment, il était selon les critères que moi j'avais demandé, alors on s'est dit, on va faire une prière en famille. Et puis on s'est assis, mon mari et moi, et puis il y avait notre bébé de 6 mois qui était là, on l'a mis dans le relax, puis on a dit, c'est une prière de famille, alors toi aussi tu viens. Et puis on était les trois comme ça, mais j'ai trouvé ça très chouette. Moi, je me rappelle tellement bien de ce moment où elle était là. On était une famille. Pour moi, c'était important. Alors, être ensemble, les familles qui ont du plaisir à investir du temps ensemble sont plus à même de voir plus tard leurs enfants venir se confier à eux. Et la suite, je vais la laisser à Sven.
Salut à tous. J'ai pas l'habitude de parler comme ça. J'ai un peu plein de papier. J'ai fait ça à la main, tranquillement. Donc voilà. Moi, je vais reprendre en fait la thématique de l'identité familiale et puis la force en fait de se rallier à une identité familiale, à un groupe, à un clan presque, on peut le dire. Juste, faut zapper avec quoi, là? Ok. J'ai pas vraiment suivi, si vous voulez, le PowerPoint. Moi, j'ai beaucoup parlé en fait de mes expériences. Donc, si vous voyez pas du tout de rapport, faut pas vous étonner. Hein, je vais zapper par religiosité. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler des traditions marrantes ou finalement des anecdotes ou des moments forts en famille. Personnellement, on a beaucoup partagé au travers du rire. Et puis, et je me rends compte aussi aujourd'hui, en relisant tout ça, en expérimentant avec ma propre famille, avec mes enfants, combien ça a forgé des choses en moi, combien ça a consolidé en fait les fondements de ce que moi je construis maintenant et que j'ai aussi envie de poser. Donc, mes souvenirs que je garde, c'est beaucoup sur ces moments clés, ces anecdotes, ces habitudes ou les traditions qui appartiennent uniquement à ma famille et pas à une autre. C'était vraiment personnalisé, que chaque membre savait qu'est-ce que ça voulait dire, quoi. Ce qui était rigolo, c'est que les autres amis qui venaient chez nous, donc je parle de moi, enfant, à force, ils connaissaient un peu nos codes. On avait deux, trois trucs. On tapait sur la table, on tapait des mains. Enfin, voilà, après la prière, juste avant de manger, on avait des trucs comme ça. Et puis, voilà, les amis reconnaissaient ça. Et puis, ça devenait vraiment un truc de chez nous. Et ça donnait envie d'en faire partie. Du coup, on avait vraiment une fierté qui naissait pour la famille. On avait aussi un sifflet de famille qui était... Puis ça, on l'a gardé, quoi. Même autour de chez nous, il y avait des nichages de merles et ils s'étaient approprié ce sifflet parce que c'était un truc que mes parents utilisaient toujours pour nous appeler. Puis c'était assez rigolo, quoi. La preuve, même les oiseaux avaient envie, quoi. Ouais, un dernier exemple un peu bête mais rigolo que mon père nous avait appris, c'est de faire semblant à table de s'écraser en fait la face contre la table en tapant avec le poing. Puis quand il y avait des invités, ça surprenait tout le monde et ça faisait rire les gens, mais c'est mon père même qui m'avait enseigné ça et c'est à qui il le faisait le mieux possible. Alors on rigolait bien, alors. Bon, après avec ma sœur, on a essayé d'étayer le truc en prenant nos dents de sagesse et puis une gorgée de ketchup et puis on essayait d'y mettre un peu de scandale au milieu. Alors il a fallu recadrer, mais ça a créé l'air de rien des très bons souvenirs en famille et puis ça, voilà, c'est une brique en plus. Mais la chose que je rappelle au travers de ça, c'est que même si c'est rigolo tout ça, ça nécessite d'être ensemble et d'être ensemble, c'est aussi prendre le temps. Et puis ça, c'est un peu le fil rouge de ce cours à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui ont comme premier défi le temps à prendre. Il y a la notion aussi des images, des photos qui peuvent retracer aussi l'histoire du couple avant qu'il y ait les enfants, pour que voilà, les enfants puissent aussi se projeter sur qui étaient mes parents avant, sur les parents même avant qu'ils soient en couple. Et comment s'est construit finalement cette famille? Qu'est-ce que ça veut dire ce clan qu'on est, quoi? D'où il vient? Et puis ça, c'est vrai que moi, j'ai souvenir de plein d'idées que je me faisais de mes parents avant. Et ça contribue aussi à cette identité familiale. On parle aussi les Melwich parlent aussi des rites de passage. Par exemple, quand leurs enfants, juste avant leurs 11 ans, ils leur proposaient un restaurant, un soir de fête où l'enfant pouvait choisir son restaurant. Il avait un peu l'honneur. Et puis, c'était un passage apparemment scolaire. Ils disent qu'ils passaient de la primaire à la secondaire. Et puis... c'était quelque chose que chaque enfant attendait et qui avait toute son importance. Moi, je me rappelle, dans ma famille, c'était les anniversaires. Le matin de l'anniversaire, on allait tous en famille réveiller celui qui avait sa fête avec une bougie, un biscuit, n'importe. Enfin, juste histoire de lui rappeler que c'était lui qui était à l'honneur, que c'était son jour de fête. Et puis, ça permet aussi de se faire reconnaître par ses pères et puis de se dire que bah, ouais, ça sera aussi, mon jour arrivera aussi pour qu'on me fête. Et puis ça... Tout ça, c'est des choses qui restent gravées et puis qui sont très fortes. On peut se dire que finalement, sans instaurer de tradition, chaque enfant se fait ses propres souvenirs. On se dit, bon, bah voilà, moi, enfant, il n'y a pas que mes parents qui m'ont amené ces moments-là. Il y a aussi plein d'autres choses de la vie. Il y en a encore qui vont me marquer. Mais n'oublions pas que finalement, on a une carte à jouer en tant que parent pour marquer la vie de l'enfant. Et puis c'est aussi une chance, c'est aussi voilà, une opportunité de poser des choses en plus pour que voilà, que l'enfant puisse aussi se sentir dans sa famille et puis porté par sa famille aussi. Donc voilà, on a le choix d'instaurer quelque chose ou pas, Et puis ça a un impact, ça influence quand même beaucoup. Ça va ? Cool. Une autre influence, c'est l'entourage de l'enfant. Il ne faut pas oublier qu'après la famille... je m'emballe. Oui, après la famille, c'est aussi les autres... Après la famille, c'est les autres enfants, les amis des enfants qui ont une très forte influence dans leur suite de la vie. Et puis, moi, j'ai repensé à une situation où j'étais face à mes copains et comment mes parents ont réagi à ce qu'on faisait en famille. Ce qui était en question, c'était la prière avant de manger. Et puis moi, ça m'avait posé beaucoup de problèmes quand un pote venait manger à la maison, qu'on prie. Ça me mettait très, très mal à l'aise pour lui. Il faut dire que où j'ai fait ma scolarité, il y avait vraiment une sorte de haine contre les chrétiens. Les chrétiens, c'était des momiers. Il y avait vraiment une petite forme de persécution. Il y avait un petit acharnement sur les chrétiens. Puis moi, j'avais, comme tout enfant, très vite compris où est-ce qu'il fallait se mettre pour pas être dans le mauvais camp. Et puis c'était très difficile de se dire, mais mes valeurs familiales, c'est ça. Moi, je suis à l'école, c'est le boxon. Enfin, comment je fais dans tout ça? Comment je me situe dans tout ça? Et puis j'avais finalement une petite détresse quand c'était ces moments où le pote venait à la maison et puis on allait lui dévoiler toute cette chose qu'il n'était peut-être pas censé savoir et dévoiler ça à tous mes autres potes. Puis voilà, moi, j'étais pas bien avec ça. Ce qui est cool, c'est que j'ai pu le dire à mes parents, je leur ai exprimé que j'étais vraiment pas bien avec ça. Même si ça aurait très bien pu se passer, que le copain, il avait pas du tout l'intention de me faire du mal avec ça ou d'utiliser ça, mais moi, j'étais pas bien. Et puis, mes parents, ils ont répondu en étant d'accord de zapper l'étape de la prière quand mes copains venaient à la maison. Et puis ça, c'est discutable, mais ça m'a fait un bien fou, dans le sens où j'ai été reconnu dans mon besoin. Mes parents, ils n'ont pas voulu imposer ça comme quelque chose de rigide qui était comme ça, puis que ce n'est pas un copain qui va venir nous dire comment faire ou comme ça. Enfin, ils auraient très bien pu. Mais là, ils ont décidé de m'écouter et puis de voir finalement ce qui était important pour moi à ce moment. Et puis, ça m'a apporté de la sécurité. Ça a renforcé le lien de confiance que j'avais avec mes parents. J'ai pu me dire, OK, mes parents, ils m'écoutent et puis ils prennent vraiment en compte. Parce que pour moi, c'était fondamental. Et puis, ça aurait pu être comme plein d'autres choses. Et ça ne m'a pas empêché de prier ou d'être fier de mon Dieu plus tard. Enfin, oublions pas ça, c'est cool, quoi. Et puis, ouais, symboliquement, le groupe, la famille reconnaît mon besoin. Et puis, ils ont pu mettre en place quelque chose pour respecter ce besoin. Et puis, voilà. Donc, moi, c'est quelque chose qui est resté très fort. Et puis... qui n'empêche pas qu'on puisse être d'accord ou pas. On pose un peu nos limites où on veut qu'elles soient selon l'importance pour nous. Mais pour moi, ça s'est passé comme ça et c'était cool. Une autre influence, là, on vient déjà vers les choses un peu plus multimédia, la télé, les ordinateurs, enfin les écrans en général. Maintenant, on peut dire ça. Il y a, je pense, plus d'écrans que d'êtres humains. Et c'est plus les écrans qui nous regardent que nous qui les regardons. Mais avant, peut-être, si vous voulez prendre note, je suis tombé une fois sur un reportage d'un gars qui s'appelle Michel Desmurget, avec T à la fin, je ne sais pas comment ça se dit, qui s'appelle TV Lobotomie, et qui est très intéressant pour juste constater les effets de la télé, que ce soit physiquement, sur les traits de comportement, sur tout cet aspect-là, et c'est très riche. Bien sûr, on n'en parle pas beaucoup, ce n'est pas très médiatisé, parce que ça parle de la télé qui est une grande force. Donc voilà, si jamais je vous laisserai le regarder, ça dure une petite heure, mais c'est digeste, le gars est assez rigolo. Desmurget, Desmurget. Mais sur YouTube, si tu mets TV Lobotomie, tu tomberas sur lui. Lobotomie. Il a écrit un livre aussi là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui basent leurs valeurs morales sur la télé, sur ce qui est véhiculé dans la télé. Donc c'est un flux continu, il ne faut pas l'oublier. C'est tout le temps, si c'est allumé, c'est tout le temps en train de diffuser. Je reviendrai juste peut-être au bébé, pour parler des enfants qui voient la télé, qui vivent avec la télé. N'oublions pas que c'est une source forte de lumière, de mouvement et de son, qui est quand même des choses qui stimulent et qui attirent beaucoup et qui... hypnotise au final parce qu'il n'y a rien qui permet à l'enfant de développer son cerveau correctement parce que tout est fait à sa place. Donc l'enfant, il a besoin d'interactions réelles, il a besoin de regards, il a besoin d'objets ou d'images pour que le cerveau se développe correctement. Enfin, ça, c'est quelque chose de basique, mais moi, ça m'a fait du bien de m'en rappeler. Et puis, et de me dire que, ouais, c'est... effectivement, la télé occupe le temps, elle permet de passer certains moments plus facilement, mais j'ai l'impression que c'est aussi des temps perdus pour nous, parce que tout ce que nous, on pourrait poser, on ne le fait pas à ce moment. De nouveau, la notion de temps, elle est en question, parce que c'est beaucoup ça qui nous défie. Ouais, donc tout le travail d'imagination, de création, de coordination, d'expression qui peut se faire avec un contact direct, bah, ça ne peut pas se faire avec la télé. Plus grand, il ne faut pas oublier aussi la notion de tout le plan moral qui enseigne et inculque des notions, des mots, des normes, des normes de comportement que peut-être nous, on n'a pas envie d'enseigner, mais que la télé, c'est servi direct. Bon, je pense qu'on en aurait des plombes à tout analyser, ce que ça peut faire. Je pense qu'on vit très bien aussi avec la télé, ça fait partie de notre culture, ça ne nous a pas complètement démoli, voilà. Mais c'est cool de reconsidérer ça, et puis de voir un peu à quel point on pourrait aussi, nous, impacter plus que la télé. Les ordinateurs, Internet, c'est une bonne ressource pour la famille. Il y a des super bonnes choses à aller tirer de là-bas. Mais ça, il y a aussi beaucoup de pubs et de sites web qui peuvent voler l'enfance à nos enfants. Quoi. Finalement, c'est encore plus subi que la télé. C'est inattendu. C'est un marketing qui est assez violent. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi être attentif à ça. Des conseils aussi pour un ordinateur. C'est chouette d'avoir un ordi, mais c'est aussi bien de le garder dans un endroit public pour qu'on puisse y accéder et puis que ça ne devienne pas un coin secret qui donne envie justement de se faufiler à travers différents sites. Et puis pas être dans quelque chose de caché ou de secret, d'isolé, parce que là, de nouveau, moi j'ai une situation d'un ami qui a sa fille qui est pré-ado et qui a un iPod, parce qu'un de ses iPods tactiles, ça ressemble à un iPhone finalement, et puis il y a toutes les mêmes fonctions, sauf qu'il n'y a pas de téléphone. Et puis il a un acompte sur iTunes, puis une fois, il observait ses factures, il a vu qu'il y avait 2 balles, je crois, qui avaient été débitées sans qu'il sache ce que c'était. Puis il a remonté le truc, puis il s'est rendu compte en fait que c'était sa fille qui avait chargé une application. Et voilà, parce qu'elle avait accès à ça, c'était un des seuls trucs auxquels elle avait accès. Puis en fait, il s'agissait d'un truc un peu de Kamasutra, de machin. Et puis elle était curieuse, voilà, normal aussi. Et ce qui est cool, c'est que mon pote, il m'a aussi dit que bah, comment lui, il a réagi à ça, c'était chouette parce qu'il a pu aussi aller la questionner. Ah, bah, tu vois, là, moi, j'ai vu ça, je me suis demandé ce que c'était, puis c'est quoi, du coup. Puis elle était toute mal à l'aise, bien sûr, mais. Ce qui est cool, c'est qu'ensemble, ils ont pu mettre la lumière là-dessus et puis discuter librement et puis et légitimer aussi sa curiosité, quelque part, sans mettre un tabou. Je pense qu'il y a un gros enjeu là-dessus pour l'adolescence. Et puis, je pense que de mettre en lumière les choses, c'est le point fondamental pour ça. Pour tout autre tabou, je veux dire, c'est cool de mettre des mots. Au niveau aussi des écrans, vu qu'ils occupent beaucoup de notre temps et du temps des enfants, oublions pas que l'ennui porte conseil et puis il porte plein d'autres choses aussi. Puis combien de fois, moi, c'est en shootant un gravier, en réfléchissant à quelque chose, finalement en digérant ma journée bêtement ou en repensant à un souvenir que j'ai eu d'autres idées, que ça m'a projeté dans d'autres choses, que j'ai pensé à faire quelque chose. Enfin, ça, c'est des tremplins l'ennui finalement. Et puis oublions pas que de laisser un enfant, manger de l'herbe ou je sais pas quoi, ça aide aussi à se poser. C'est juste aussi du temps pour pas tout remplir. Et puis, il peut sortir des choses superbes de l'ennui. Ce qu'on appelle ennui, le divertissement, il est des fois à double tranchant. Ouais. Ça va toujours. J'ai oublié en fait avant de vous proposer de regarder dans votre petit fascicule par rapport aux traditions familiales, je m'excuse. Mes notes, elles sont un peu, je dirais pas le mot, mais voilà, j'oublie un peu la trame de base et puis j'ai oublié complètement les PowerPoint, veuillez m'excuser. Mais c'est une très jolie télécommande. Donc page 20. Qu'est-ce que vous voyez chez vous maintenant dans votre famille comme tradition? Et qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez faire comme autre tradition ou à mettre en place? Je pense, pour continuer le message sur les influences, que c'est important d'encourager les enfants à aussi finalement choisir l'influence de leurs amis, choisir leurs amis aussi, parce qu'on est confronté à tout le temps plein de monde, et puis quand on est gosse, et puis c'est... Voilà, je pense c'est un bon conseil de parents que de dire, mais de re-questionner l'enfant sur comment il côtoie les gens, qu'est-ce qu'il fait avec eux, etc. Sans l'enfermer, mais en allant questionner peut-être. Moi par exemple je me suis remémoré quand j'étais pré-ado, mes parents ils ont été d'accord pour que j'aille à des soirées, ça a commencé avec des booms, des trucs comme ça, et puis c'était l'approche de l'adolescence déjà, et puis moi j'étais quand même assez surpris de voir que ok, tu peux y aller, je dis, ah ouais, il n'y a même pas une négociation, alors il y avait de toute façon une heure de rentrée sur les débuts machin, mais ils ont été d'accord, et puis ça m'avait un peu dérangé. Alors, avec mes frangines, on avait eu une fois une discussion avec mes parents en disant, mais ça va pour vous? Ça se passe comment? Et puis, en fait, ils nous avaient simplement répondu que nous, oui, ils avaient peur pour nous, oui, ils s'inquiétaient pour nous très fort, mais ils priaient. Voilà, ils priaient pour nous dans ces soirées où on allait. Et puis, bah, moi, ça m'avait dit, ah ouais, bah, voilà, mes parents... quand je suis dehors, bah, ils sont ensemble et puis ils prient. Et puis ça m'a fait un effet très fort. Puis aussi libérateur, parce que c'était responsabilisant de me dire ça. C'était voilà, bah, tu es libre d'y aller. Maintenant, nous, on a notre part de chemin à faire en priant pour toi. Mais on te fait confiance. Donc il y a à nouveau un renfort de confiance où finalement, je ne peux pas faire ce que je veux. J'ai aussi une responsabilité en allant à cette soirée. Et puis ça met une lumière honnête sur ce qu'ils vivent eux, quoi. C'est pas genre voilà, j'ai pu savoir et connaître ce qu'eux vivaient, que c'était pas facile. Mais ils ont pu me prouver qu'ils voulaient mon bien en faisant comme ça, et ça c'est très fort. N'oublions pas l'importance aussi d'avoir des personnes plus âgés, mais qui sont pas non plus de notre âge dans la famille, des amis qui peuvent avoir aussi faire un lien, un pont entre l'âge de nos enfants et puis le nôtre, qui renforce aussi les bonnes influences quelque part. Ça peut être des jeunes du groupe de jeunes, ça peut être voilà, qu'il puisse y avoir une synergie aussi entre les générations, et puis que l'enfant puisse aussi se projeter en voyant d'autres exemples, pas que la famille, l'extérieur c'est tout, ou l'école du dimanche avec les autres petits du même âge, mais de voir aussi, de faire circuler finalement les bonnes influences entre elles. Les Melouis, je parle justement qu'ils avaient une relation chouette avec des jeunes adultes qui avaient la vingtaine, puis qui appréciaient venir chez eux, soit pour boire un truc, soit voilà, pour passer, et puis leur maison était pas mal ouverte, donc voilà, ils pouvaient venir à tout moment. Et puis ils ont vu l'influence dans la vie des enfants, aussi par ces gens qui venaient, puis qui avaient une posture, un rôle pour les enfants. sans vraiment forcer les choses, mais juste en étant, juste en vivant avec eux. Ce que les parents ne pourraient pas faire comme influence, finalement. Vu qu'on est dans le fascicule, vous l'avez encore tous dans la main, je vous propose qu'à la page 21, vous notiez combien d'heures par semaine votre enfant passe avec un adulte de son entourage ou combien de temps il passe dans une activité. Tout est écrit normalement. Ah, c'est 20, pardon, moi c'est 21.